On y va. Donc David Noël, qui prépare donc sa thèse sur le Pas-de-Calais, va nous présenter effectivement le PCF et ses territoires, l'approche fédérale et aussi régionale, puisque on évoque avec Roger, on a évoqué des régions et pas simplement des départements. Le PCF dans le département du Pas-de-Calais dans l'entre-deux-guerres. Vas-y.
Merci Jean. Alors, merci à la Fondation Gabriel Péri pour son accueil. Merci à Roger pour sa présentation qui était loin d'être un apéritif, qui était très très intéressante. Mon intervention cet après-midi s'appuie sur mes recherches dans le cadre de ma thèse dirigée par Jean Vireux. Je voudrais en préambule vous demander de bien excuser son caractère lacunaire et nécessairement partiel, puisque je me concentrerai volontairement sur la période des années 20. Mais je crois qu'on verra bien comment l'ossature dont parlait Roger se constitue dans le département du Pas-de-Calais. Alors, en préambule, se lancer en 2016 dans une thèse d'histoire politique départementale consacrée au mouvement communiste soulève inévitablement des questions. Alors peut-être c'est moi qui suis vieille école, je ne crois pas. Mais effectivement, ça pose de chercher un triple défi qu'on peut quand même aborder avec une relative sérénité. Alors, Jean l'a rappelé, la première objection, on peut penser à ce vieil article de Pierre Rougerie dans les Annales. À l'ère de l'histoire mondiale, de l'histoire connectée, on pense à tous les travaux récents de Sabine Dulin, de Sophie Curé, ou encore à l'ouvrage dirigé par Romain Ducoulombier, Jean Vigreux, à la suite du colloque de Dijon de 2016, est-ce qu'on peut encore départementaliser l'histoire de France? Est-ce que ce n'est pas ringard? Alors le débat n'est pas nouveau. Alors, je rappelle les propos de Pierre Rougerie, c'est une bien étrange entreprise, assurément, que d'élire pour lieu privilégié de ses recherches cette unité monstrueuse qu'est le département, microscopique, arbitraire, anachronique, aussi sottement anti-économique que contre-géographique. Pierre Rougerie souligne cependant, pour nuancer son propos, qu'on peut objecter d'une part que c'est bien dans le cadre départemental que s'organise la vie politique et que fonctionne l'administration, et que d'autre part les dépôts d'archives sont départementaux. De fait, les élections cantonales et législatives qui rythment la vie politique ont effectivement lieu dans le cadre administratif qui est celui du département. Je vais peut-être montrer une carte des cantons du Pas-de-Calais qui date de la Révolution française. Des districts du Pas-de-Calais qui datent de la Révolution française. Donc les élections ont lieu dans le cadre du département. Sous la Troisième République, les élections législatives de 1919 et 1924 ont lieu au scrutin de liste départemental. Par la suite, ce mode de scrutin est abandonné. On revient au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre de circonscriptions qui regroupent plusieurs cantons d'un même département. De même, les municipalités, on le verra, voient leur action contrôlée par le préfet du département. Et les partis politiques se structurent sur une base territoriale. Quand les premiers partis politiques structurés apparaissent à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, leurs adhérents se regroupent en sections de villes qui dépendent d'une fédération départementale. Les militants locaux les plus investis ou les plus aptes deviennent parfois des élus locaux, ils peuvent intégrer les instances fédérales de leur parti, tandis que les dirigeants fédéraux de chaque département sont amenés à siéger dans les instances nationales de l'organisation. En fait, par leur nature même, les organisations politiques et syndicales se prêtent à l'évidence à une analyse départementale. Alors, en outre, inscrire son histoire dans le cadre du département n'empêche pas le chercheur de décentrer le regard. À cet égard, le département du Pas-de-Calais constitue un observatoire d'un grand intérêt. La proximité de la Belgique conduit les organisations du mouvement ouvrier de part et d'autre de la frontière à imaginer des coopérations militantes. Par ailleurs, le département du Pas-de-Calais est très tôt marqué par une forte immigration, notamment de Polonais venus travailler dans les mines. Face à cette immigration, un certain nombre de travailleurs sont menacés, mais les organisations du mouvement ouvrier s'efforcent d'organiser la main-d'œuvre étrangère. Alors, ces problématiques sont résolument modernes et renvoient au champ de l'histoire connectée, à une histoire des transferts culturels et idéologiques à laquelle l'histoire politique se prête, et l'histoire du communisme tout particulièrement. Alors, le département du Pas-de-Calais constitue à cet égard un observatoire d'un grand intérêt pour l'étude du mouvement communiste dans l'entre-deux-guerres. Moins industrialisé que le département du Nord, pour lequel on dispose de quelques études locales sur la naissance de la CGTU et du Parti communiste, le département du Pas-de-Calais est marqué par une certaine diversité, on le voit sur la carte, qui pose un certain nombre de défis organisationnels en termes de maillage du territoire, aux organisations politiques et syndicales. La densité urbaine, le tissu économique, la sociologie de la population ne sont pas les mêmes dans le bassin minier du Lançois et du Béthunois qu'on voit ici sur la carte et qui se poursuit dans la région de Douai et Valenciennes dans le département du Nord. Sur la côte, qui est dominée par les agglomérations portuaires de Calais et de Boulogne qui a été étudiée par André Lavoury dans un ouvrage reprenant son mémoire de maîtrise, et dans les campagnes du Ternois, par exemple, autour de Saint-Paul-sur-Ternoise ou autour d'Arras. Du fait de son histoire industrielle et de l'implantation précoce du syndicalisme et du socialisme, le département du Pas-de-Calais constitue en outre l'un des départements dans lesquels le mouvement ouvrier est le plus solidement implanté. De fait, les fédérations socialistes et communistes de ces départements ont toujours compté parmi les premières fédérations de France en nombre d'adhérents, ce qui justifie qu'on s'intéresse à leur organisation et à la manière dont les territoires politiques se construisent. Au niveau des sources, il y en a de nombreuses. D'abord, la presse locale, par exemple, la presse régionale. Il y a le journal Le Prolétaire qui est fondé à Lille par Clotaire Delourme, un instituteur d'ELEM, ancien combattant de la Grande Guerre. Dans l'arrondissement de Boulogne, on a l'hebdomadaire socialiste Le Réveil de Boulogne, qui est écrit principalement par Arthur Bally, secrétaire de mairie à Outreau, et premier secrétaire de la Fédération communiste du Pas-de-Calais après le congrès de Tours, qui adopte ce journal, Le Réveil de Boulogne, qui devient le communiste du Pas-de-Calais pendant plus d'un an. Ce journal disparaît dès 1922. Ce sont des publications qu'on peut consulter aux archives municipales de Boulogne et de Calais, mais également aux archives départementales du Pas-de-Calais à Arras. Elles fournissent des informations locales et également des informations nationales. Le Prolétaire du Nord devient l'Enchaîné en 1923, après son interdiction par le gouvernement Poincaré. Alors, l'Enchaîné est d'abord un journal hebdomadaire, puis il paraît un rythme quotidien en 1926-1927. Il redevient hebdomadaire en février 27 et va le rester jusqu'en 1939. Il se dote d'une édition départementale du Pas-de-Calais, puis les autres éditions dépendent du département du Nord. Évidemment, outre l'Enchaîné, on peut regarder d'autres journaux. On ne peut pas se contenter, bien sûr, du seul regard du PCF pour étudier le PCF. On pourra regarder, par exemple, le Grand Écho du Nord, qui est le principal quotidien du Nord et du Pas-de-Calais durant l'entre-deux-guerres. Également le journal de Roubaix, qui est le quotidien de l'industrie textile nordiste. Le Télégramme du Pas-de-Calais, qui est un journal conservateur. Ou encore le Réveil du Nord, qui est le grand quotidien progressiste du Nord-Pas-de-Calais, et qui paraît à l'époque en 6 puis 10 éditions locales durant notre période. Excusez-moi. On peut passer à la suivante. Alors, dans un premier temps, je voudrais parler des ruptures et continuités qui président à la naissance du Parti communiste dans le Pas-de-Calais. Alors, le Parti communiste dans le Pas-de-Calais s'inscrit dans des héritages multiples. Il y a des héritages multiples. Il est l'héritier de multiples traditions. Incontestablement, la première de ces traditions, c'est le guédisme. Le guédisme a influencé le Parti communiste. D'ailleurs, on peut penser à un article d'André Ferrat qui est paru dans le cahier du bolchevisme en 1932 pour les 10 ans de la mort de Guède. André Ferrat rend hommage à Jules Guède et au POF tout en critiquant les fautes commises par Guède et les insuffisances du POF comme parti révolutionnaire. En fait, le parti de Jules Guède a été très influent dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. On peut penser donc dans le département du Nord à Henri Carrette, qui est élu maire de Roubaix en 1892. L'année suivante, Jules Guède lui-même est élu député des circonscriptions de Roubaix. Et Gustave Delory rencontre la mairie de Lille en 1896 à la faveur d'une alliance avec les radicaux. Incontestablement, le Nord et le Pas-de-Calais font figure de bastion du POF. La fédération du Nord du POF pèse un poids massif dans le POF au niveau national. Il représente la moitié du total des adhérents du parti guédiste. Le POF est un parti largement dominé par les ouvriers, qui sont 60% des adhérents du parti guédiste. Donc je renvoie là aux travaux de Claude Villard, qui sont bien connus sur le POF. Donc parmi eux, ces ouvriers sont beaucoup d'ouvriers d'industrie textile qui correspondent aux zones de force du parti, la métropole lilloise avec Roubaix, mais également le secteur de Calais, dans le Pas-de-Calais, où les guédistes sont à la tête du syndicat des ouvriers tullistes. Le POF s'implante dans le bassin minier au lendemain des grèves de 1893. Portés par leurs succès électoraux à Lille et Roubaix, les élus du POF organisent des réunions publiques dans le bassin minier afin de diffuser les idées socialistes et de constituer des groupes locaux. Alors, l'accueil est parfois hostile, comme à Billy Montigny, le journal Le Temps rapporte qu'une foule d'environ 3000 manifestants patriotes organise une contre-manifestation pour empêcher la tenue d'une conférence de Gustave Delory et Henri Guéquière en 1896. Les 150 militants socialistes venus de Lens en train sont accueillis par des manifestants nationalistes au cri de « À bas les sans-patries ». Plusieurs manifestants sont bousculés et frappés. Et les gendarmes doivent évacuer les auditeurs déjà rentrés dans la salle. Et Le Temps rapporte même que le commissaire de police, confondu avec Gustave Delory, est molesté par les manifestants nationalistes. Bon, ça fait son plein. Alors c'est la ville d'Avion qui constitue le principal bastion du POF dans le bassin minier. Comme les autres villes du secteur lensois, le développement de la ville d'Avion est lié à l'industrie minière. Deux puits sont alors en activité, les puits 4 et 5 de Lens. Et l'industrie minière a considérablement accru la population de la ville d'Avion. En 1844, Avion comptait 1200 habitants. En 1892, ils sont 2000. En 1900, environ 5000 habitants. Alors, parmi eux, il faut citer Octave Delcourt, militant syndicaliste, délégué à la Fosse 5, qui est le principal dirigeant du POF sur Avion. Il est correspondant du journal Le Forçat. Il fonde le premier groupe du POF à Avion en 1886, le syndicat et la coopérative en 1889. En 98, sous l'impulsion de Delcourt, Avion arrive en tête dans le département du Pas-de-Calais pour le nombre d'adhérents, avec 55 cotisants réguliers au PEF. L'activité des guédistes et leur critique contre le chef réformiste du syndicat des mineurs irritent Émile Bazly, dont on reparlera dans un instant. Et en avril 1900, Delcourt est exclu du syndicat des mineurs. Dans la même année, le PEF crée un groupe du bassin minier autour d'Avion. Ce groupe progresse rapidement. Ils ont 250 adhérents à sa création en septembre 1900, déjà 1600 fin 1901. Là, déjà, il y a un bastion dans le secteur d'Avion du bassin minier du guédisme. Le POF est également influent dans le secteur d'Enalietar, comme le note par exemple le journal Le Guetteur de Saint-Quentin-et-de-l'Aisne, qui explique que la concession de Dourges, qui se trouve en grande partie sur le territoire d'Enalietar, et dont presque tous les ouvriers habitent cette ville ou les environs, a toujours eu un personnel turbulent. C'est là qu'éclate, il y a un an, un mouvement gréviste. Le Parti ouvrier français y possède une section agissante qui a toujours été en conflit plus ou moins accusé par le syndicat des mineurs et ses dirigeants. Avec la concession de Drocourt qui la touche, la concession de Dourges compte un petit noyau d'agitateurs exubérants. Alors, la puissance du socialisme du Pas-de-Calais est surtout liée à son étroite imbrication avec le vieux syndicat des mineurs. Vous avez en illustration la maison syndicale des mineurs qui se trouve à Lens. Les deux organisations sont étroitement liées. Dès les années 1880, les premières formes d'organisation ouvrière sont apparues dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Dans le Nord, Émile Bazly devient secrétaire du syndicat des mineurs d'Anzin, sa création en 1882, à une époque où le syndicalisme n'est pas encore encadré par la loi. Bazly, on le connaît tous, il s'illustre dans la grande grève des mineurs d'Anzin de 1884, il est surnommé le mineur indomptable. C'est le modèle d'Émile Zola qui vient en repérage pour son roman sur la mine, qu'il rencontre à cette occasion et qui s'inspire de sa verve pour créer le personnage d'Étienne Lantier dans Germinal. Comme dans le livre, la grève d'Anzin se solde par un échec, mais elle a eu tendance à renforcer l'aura d'Émile Bazly. Adhérent du POF, député de Paris de 1885 à 1889, Émile Bazly se présente à Lens aux élections législatives partielles de 1891. Il est élu député de la première circonscription de Béthune, c'est-à-dire Lens-Carvin. Il est constamment réélu jusqu'à la mairie de Lens jusqu'à sa mort en 1928. Son mandat de député lui permet d'enlever la mairie de Lens en 1900. Ainsi que le canton de Lens-Est la même année. Donc il est député, maire, conseiller général de Lens, président du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais. Ses détracteurs le surnomment le tsar de Lens. C'est l'homme fort du socialisme du Pas-de-Calais à la veille de la Première Guerre mondiale. À ses côtés, on a Arthur Lamandin. Arthur Lamandin, mineur de fond à la fosse 1-20, qui crée la première chambre syndicale des mineurs. Licencié par la compagnie des mines d'Anzin à la suite de la grève de 1884, il devient permanent du syndicat des mineurs. Conseiller municipal de Liévin à partir de 1891, député à partir de 1892 et jusqu'à 1919, conseiller général du canton de Lens-Ouest, donc même profil que Bazly, Lamandin est maire, conseiller général, député et donc vice-président du syndicat des mineurs. Son assise participe à faire de Liévin l'une des citadelles du socialisme du Pas-de-Calais. On pourrait citer également Uriane Souriau, ancien mineur, vendeur du Réveil du Nord, gérant d'une coopérative à Courrières, membre du conseil d'administration du syndicat des mineurs. Il est élu conseiller général en 1907. Maire de Courrières en 1912, député en mai 1914. Ces trois hommes, Bazly, Lamandin, Uriane Souriau, incarnent un socialisme modéré et réformiste, étroitement lié au syndicalisme des mineurs. On pourrait également citer un quatrième homme, c'est Henri Cadeau, qui va être le plus actif durant l'entre-deux-guerres, qui est élu pour la première fois député en 1914. Il est vice-président du syndicat des mineurs, directeur politique de la Tribune des mineurs, l'hebdomadaire du syndicat des mineurs. Il est délégué mineur, il adhère au POF en 1899 et rejoint la SFIO dès 1905. Son mandat de député lui servira de tremplin pour remporter la mairie de Bruay après la Première Guerre mondiale, un Bruay qui s'appelle aujourd'hui Bruay de la Buissière. Alors, l'autorité du syndicat des mineurs sur la corporation minière lui vient des nombreux mouvements de grève qui ont émaillé le bassin minier en 1884, 89, 91, 93, 1902, 1906. Si ces grèves ont parfois connu l'échec et vu les compagnies minières licencier des centaines de grévistes, sont parvenus à arracher un certain nombre de concessions, comme Hubert Rouget l'explique dans le volume de l'Encyclopédie socialiste dirigé par Compère Morel, qui paraît en 1921. Lorsque la guerre éclata, les mineurs du Pas-de-Calais avaient, grâce à l'action syndicale, aux grèves presque toujours nécessitées par la résistance patronale, conquis de meilleures conditions de travail, meilleur aménagement de la mine, salaire augmenté, garantie contre l'accident, la maladie, de sérieux relèvements du taux de leur retraite. Alors, à côté du syndicalisme réformiste, incarné par Bazly, Cadeau et Lamandin, du courant guédiste, je vous ai mis la foule à Lens en 1906 lors de la grève qui fait suite à la catastrophe de Courrières, et donc la foule est rassemblée pour écouter Bazly. Donc à côté de ce syndicalisme réformiste, le département du Pas-de-Calais est marqué par l'influence du syndicalisme révolutionnaire d'inspiration anarchiste dont le leader est Benoît Brouchoux, qui est sur la diapo suivante. Le conflit est féroce entre ceux que l'on surnomme les brouchoutistes, les partisans du jeune syndicat des mineurs animé par Benoît Brouchou, et leurs adversaires, que les amis de Brouchou qualifient avec dédain de baslicots, les partisans du vieux syndicat de Basli. La violence du conflit a marqué Maurice Thorez, qui s'en souvient dans Fils du peuple, en évoquant son grand-père. Donc je vous lis l'extrait de Fils du peuple en question, il évoque la catastrophe de Courrières en 1906. Durant la grève, Clément Baudry, mon grand-père, se dépensa sans compter. Vieux militant ouvrier, il avait adhéré dès la première heure au syndicat fondé par Basli. J'aimais l'entendre. Il me racontait l'histoire de sa vie et de ses luttes. Sa vie, elle était illuminée par la passion pour le syndicat, pour la classe ouvrière. Récits toujours nouveaux de grève, de batailles et d'efforts, où claquaient comme des drapeaux les noms de Basli et de Jules Gad. Le grand-père tempêtait contre les faux frères, contre le jeune syndicat et la CGT opposés au vieux syndicat de Basli et de l'Amanda. Les deux syndicats se livraient une âpre bataille, et dans ces pays du Nord où les traditions des anciens compagnonnages et de leur rivalité demeuraient vivaces, on en venait parfois au coup. L'influence des Brouchoutards était grande à Courrières et à Lens. Sur son maigre salaire, il ne manquait pas de prélever d'abord, bien qu'il eût 10 enfants à élever, la cotisation syndicale, puis 2 sous par semaine pour son journal Le Réveil du Nord. Sur la fin de sa vie, il lisait régulièrement le journal communiste L'Enchaîné. Alors, le témoignage de Maurice Thorez est intéressant. Il y a inévitablement une part de reconstruction dans le récit de Thorez, qui se pose en héritier de son grand-père ici, mais il n'y a pas de raison de douter de la réalité de son admiration pour son grand-père, ni de l'aversion de celui-ci envers les brouchoutistes, qui apparaissent comme des extrémistes anarchistes. 30 ans après les événements de 1906-1907, Thorez se rappelle de la vivacité des querelles syndicales opposant réformistes et révolutionnaires. Et dans ce conflit qui structure durablement le paysage syndical du bassin minier, son grand-père a donc choisi le camp du vieux syndicat et de Basli, au contraire de nombreux futurs cadres du Parti communiste et de la CGTU passés par le jeune syndicat de Brouchou, à l'instar du futur député de Douai, Henri Martel. Alors à partir de 1903, Brouchou s'implique dans le jeune syndicat qui vient d'être constitué par les guédistes au congrès, au congrès de 1903. Il devient le rédacteur en chef du réveil syndical, hebdomadaire du jeune syndicat, rebaptisé l'Action syndicale. Alors, on a quelques éléments sur le brouchoutisme et l'action syndicale, notamment c'est Jacques Julliard qui a commis un article sur jeunes syndicats et vieux syndicats dans le bassin minier en s'appuyant sur les archives de Pierre Monat. Et donc c'est Pierre Monat qui était appelé par Brouchou pour le seconder lors de son arrestation, qui écrit « Lorsque j'arrivais dans le Pas-de-Calais, la fédération syndicale comptait dans les 300 à 400 adhérents répartis dans une quinzaine ou une vingtaine de sections à Lens, dans une zone de 10 à 15 km autour. En somme, sur les 15 puits de mine du Pas-de-Calais, nous en touchions à peine le tiers. C'était peu. Mais le vieux syndicat n'en comptait certainement pas plus. Par contre, il avait des représentants dans toutes les compagnies, soit comme délégués mineurs, soit comme maires ou conseillers municipaux. Tandis que l'influence du jeune syndicat se limitait aux compagnies de Lens, de Livin, de Courrières, de Drocourt, influence plus grande d'ailleurs que ne le ferait croire les effectifs, tant pour l'une que pour l'autre des deux syndicats. Un témoignage intéressant parce que cette implantation du jeune syndicat révolutionnaire de Brouchou, en fait, elle va correspondre à la zone de force du Parti communiste dans l'entre-deux-guerres, le secteur de Courrières, Hénin, Avion. Je poursuis. Je vous passe le passage sur les articles très enlevés de Benoît Brouchou contre Basli, les fumistes, Brouchou qui racontait les aventures galantes d'Émile Basli dans son journal L'Action syndicale, et sur un ton très ironique, polémique et gouailleur, qui d'ailleurs agaçait beaucoup Pierre Monat et Georges Dumoulin. On peut penser quand même que ce ton polémique et gouailleur a pu participer de la popularité de Brouchou, du personnage de Brouchou dans le bassin minier. Et de son aura. Alors j'en viens au Tibet, un parti de type nouveau. Alors, bon, s'il s'inscrit dans une continuité avec ses pratiques militantes et ses héritages militants préexistants, le PCF se veut un parti de type nouveau. À partir de 1924, avec difficulté, la bolchevisation se met en œuvre dans le Pas-de-Calais. Bon, je ne reviendrai pas sur le positionnement personnel de Thorez au début de 1924, ses rapports bien connus avec Souvarine. Bon, une fois l'orage passé, Thorez se concentre sur les questions d'organisation et insiste, comme dans l'article de L'Enchaîné, formons nos cellules que je vous ai mis à l'écran, sur l'importance de l'organisation qui doit rompre avec les pratiques héritées de la SFIU. Les rayons d'arrondissement, les études d'entreprise numérotées remplacent alors les sections de ville. Et Thorez plaide pour ça en disant « mais la section, ça ronronne, on écoute l'orateur passivement, la vie, elle se passe dans la cellule d'entreprise ». Dans les nouveautés apportées par le Parti communiste, il y a l'antimilitarisme. L'antimilitarisme, c'est une composante essentielle de l'action de la propagande des communistes du Pas-de-Calais, notamment lors des commémorations, qui sont l'occasion pour les communistes de se distinguer des autres forces républicaines en particulier. Je voudrais évoquer les commémorations autour de la mort de Jaurès, l'anniversaire de la mort de Jaurès, qui qui permet aux communistes d'essayer de se poser aussi en héritier continuateur de la SFIO et d'accaparer à leur profit l'image de Jaurès, icône et martyr du combat pacifiste. Ainsi, le 12 août 1920, dans le cadre des préparations du congrès de Tours, Cachin, qui revient de Russie, est à Montignan-Gouël pour l'inauguration d'un buste de Jaurès. Selon les rapports de police, il y a 4000 personnes qui participent à cette commémoration. Où les militants du comité de la Troisième Internationale sont en première ligne derrière Cachin. Alors d'autres occasions permettent aux communistes de développer un discours antimilitariste, c'est les inaugurations de monuments aux morts. Je voudrais citer Charles Level, qui est le conseiller d'arrondissement communiste du canton de Vimy, qui prononce un discours aux tonalités très antimilitaristes à Fouquier-les-Lens en mai 1922. Donc il dit, lors de l'inauguration de ce monument en tant que conseiller d'arrondissement, il dit « Le Parti communiste a un programme révolutionnaire, socialisation sans expropriation, négation absolue du devoir militaire en régime capitaliste, ce qui nous éviterait de venir déplorer la mort de nos chers camarades. Pas un sou, pas un homme pour le militarisme, les travailleurs n'ont pas de patrie, dit Karl Marx, et on ne peut donc pas prétendre, et on ne peut donc pas leur prendre ce qu'ils n'ont pas. Plutôt l'insurrection que la guerre. Devant le monument de ces nobles victimes, jurons de nous organiser pour éviter de semblables retours des choses. Et vous, chers sacrifiés, le jour du grand soir, lorsque nous aurons démasqué et châtié vos assassins, nous viendrons sur vos tombes vous dire humblement, votre sacrifice n'a pas été vain, justice est faite. Le commissaire spécial de Lens, qui assiste au discours, dit que ce discours a fait l'objet de nombreuses critiques de la part des républicains et socialistes de la région. Il faut dire que c'est un discours qui est assez, assez virulent, hein, à une inauguration de monument aux morts. Les tensions sont fortes. Hein. Par exemple, en 1922, la municipalité socialiste de Billy-Montigny refuse la présence des communistes à l'inauguration du monument aux morts. Les tensions sont d'autant plus fortes en 23-24 lors des mobilisations contre la guerre du Rif et contre l'occupation de la Roure. On rappelle qu'à cette occasion, Torres se retrouve à la tête du comité central d'action contre la guerre constitué avec le Parti communiste, les jeunesses communistes, la CGTU et la RAC. Ça je passe. Donc début juillet, le comité central d'action adopte le principe d'une grève de 24 heures contre la guerre au Maroc. Donc, avec il y a des distributions de tracts, par exemple à Vendin, ici j'ai à Choc, à Calais, une réunion du comité d'action contre la guerre rassemble 250 personnes. Et c'est Albert Cornette des Jeunesses communistes qui dénonce avec virulence une guerre voulue par les capitalistes parce qu'il y a au Maroc des mines de cuivre, de fer et des terres pétrolifères. En 1925, à Arras, Lacan, qui est dirigeant communiste d'Arras, qui apporte la contradiction de l'Union socialiste et qui dit « La seule manière de faire finir cette guerre, c'est de faire comprendre aux ouvriers qu'en face d'eux, ils ont des ouvriers du RIF et qu'ils doivent fraterniser avec eux, leur tendre la main. Après avoir critiqué le gouvernement fautif de ces guerres ainsi que le cartel des gauches s'en est rendu complice, dit le commissaire de police, il termine en criant « Abat la guerre, vive la fraternisation !» Alors, plus que les réunions publiques, c'est la propagande en direction des conscrits qui inquiète beaucoup les autorités et qui conduisent à des arrestations. Par exemple, François N. Douche, dépositaire de journaux, conseiller municipal communiste à Houchin, dans le Béthunois, condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Béthune pour avoir collé des affiches protestant contre la guerre au Maroc et appelant les soldats à fraterniser avec les Rifains. J'ai aussi Georges Vasseur, qui est un important dirigeant communiste de Neulémine, qui intervient dans une réunion publique à Barlin le 14 septembre 1925 et qui dit « Mais ceux qui seront appelés au Maroc, nous leur disons qu'il faut que les fusils partent, mais ils doivent aller de l'autre côté où ils seront dirigés. Nous, communistes, nous disons aux employés de chemin de fer, il faut arrêter vos machines et refuser de les conduire lorsqu'elles sont chargées de munitions à destination du Maroc. » Et il précise ses propos en disant « Nous disons à nos soldats, l'ennemi n'est pas en face de vous, il est derrière. Ce sont les officiers français, c'est de ce côté que vous devez braquer vos armes et tuer ces officiers qui sont les défenseurs du capitalisme. » Alors, ces propos lui valent une condamnation par le tribunal correctionnel. Et donc, on a ici des petits papillons contre la guerre du Maroc. Oui. Autre spécificité du Parti communiste dans l'entre-deux-guerres, c'est le travail en direction des étrangers, qui est absolument essentiel et qui est en partie délégué à la CGTU, puisque la grande organisation de masse qui regroupe les travailleurs étrangers, c'est la CGTU. L'immigration polonaise a été très importante dans le paquet depuis la signature d'une convention étatique franco-polonaise à Varsovie le 8 septembre 1919. Le nombre d'étrangers dans le département, qui était de 26 382 en 1913, culmine à 224 236 en 1925. On passe de 2,5% d'étrangers dans la population du Pas-de-Calais à 19% d'étrangers dans la population du Pas-de-Calais en 1925. Et donc les plus nombreux sont désormais les Polonais qui ont dépassé les Belges. Ils sont recrutés par des délégations des compagnies minières qui vont en Westphalie et en Pologne. On a 104 000 Polonais dans le département du Pas-de-Calais en 1924. En 1926, 93% des Polonais adultes étaient mineurs et leur part dans l'effectif des compagnies minières passe de 4,6% en 1921 à 32,4% en 1926. Donc c'est absolument essentiel et l'effort de propagande en direction des travailleurs polonais est très important pour le Parti communiste et la CGTU. Le principal orateur pour les travailleurs polonais est Thomas Olzanski, que vous avez ici en illustration. Alors Thomas Olzanski, il est né en Galicie orientale sous dépendance autrichienne en 1886, adhérent du Parti social-démocrate polonais de Galicie à l'âge de 17 ans, et quitte sa région natale pour devenir mineur en Westphalie en 1906, avant d'émigrer en France en 1909, où il adhère au Parti socialiste tout en combattant le vieux syndicat. Il est engagé volontaire en 1914, il obtient son intégration dans l'armée polonaise en France et reste dans l'armée jusqu'en 1920. Naturalisé français en 1922, donc il est domicilié à Lalin dans le Douaisis, il devient très vite permanent de la Fédération unitaire du sous-sol, chargé de la propagande en direction des ouvriers étrangers. Il multiplie les réunions publiques dans tout le secteur du bassin minier. Par exemple, il est à Bruay en 1923 pour la création d'une section syndicale de mineurs polonais. Dans les années 30, le PCF et la CGTU vont se mobiliser fortement contre les expulsions de travailleurs polonais. J'ai ici un rapport du sous-préfet de Béthune daté de 1934. Donc là, on est quelques années plus tard et la crise économique est passée par là. Et c'est le sous-préfet qui a pris un arrêté d'expulsion visant des mineurs polonais. Il écrit « L'imminence des licenciements d'étrangers par les compagnies minières émeut ceux qui sont susceptibles d'être touchés par cette mesure. Le Parti communiste essaye d'exploiter cette situation et encourage les étrangers à résister. Les arrêtés d'expulsion pris contre une trentaine de meneurs communistes polonais vont calmer une effervescence qui se manifestait particulièrement dans les concessions de courrières. Les Polonais, naguère encore respectueux des représentants de l'autorité, prenaient vis-à-vis d'eux une attitude narquoise, participaient aux manifestations politiques et se considéraient en France comme en pays conquis. » Donc, ce qui justifie pour le sous-préfet de les expulser. Le 8 mai 34, il y a une manifestation à Hénin-Liétard devant le siège de la compagnie des mines de Dourges pour que les Polonais expulsés puissent au moins toucher leur paye. Et l'Humanité rapporte le 11 mai 34 que la manifestation devant la gare le jour de l'expulsion des Polonais renvoyés en Pologne n'a rassemblé que les communistes et unitaires et que les socialistes étaient étrangement absents à cette manifestation de soutien aux travailleurs polonais. Et Olzanski, quant à lui, Thomas Olzanski que je vous ai montré, donc il est arrêté en septembre 1934 pour infraction à son arrêté d'expulsion. Donc il avait été dénaturalisé en 1932, c'était une décision absolument exceptionnelle, cette dénaturalisation d'Olzanski qui avait donné lieu à une grande campagne de solidarité, mais qui évidemment qui n'a pas abouti, et donc Olzanski finalement expulsé vers la Pologne. Et parmi les travailleurs polonais expulsés, il y a à l'époque le jeune Édouard Guirec, qui était mineur au fond de la mine à Le Forêt. Il y a 200 mineurs polonais qui se mettent en grève en 11 mai 34 au fond de la mine. Donc c'est des mineurs de la CGTU. La CGT essaye d'intercéder en leur disant « si vous arrêtez la grève, vous pouvez sortir, il n'y aura pas de problème ». Et en fait, évidemment, ils sont immédiatement licenciés et expulsés vers la Pologne. Alors, je pourrais évoquer les relations compliquées du PC et de la SFIO. Alors, ces relations compliquées, c'est la troisième sous-partie. Donc, je vous ai mis ici une pile de l'enchaîné. On dénonce, en 1928, on dénonce l'infâme coalition socialo-bourgeoise. Donc ces relations, elles s'expliquent parce que en fait, les députés dont j'ai parlé tout à l'heure, Cadot, Bazile, Amendin, ont tous été des majoritaires de guerre favorables à l'Union sacrée. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le positionnement sur le vote des crédits de guerre, d'ailleurs, est contesté par une majorité des militants socialistes du Pas-de-Calais dans le cadre de la préparation du congrès de Tours, mais aussi au niveau national. Hein, c'est le populaire, par exemple, qui dit que dans le vote sur les crédits militaires, nous avons eu la satisfaction de voir la grande majorité du groupe socialiste parlementaire revenir aux meilleures traditions socialistes par un vote négatif. La plupart des égarés sont revenus à une conception plus saine de leurs devoirs. Cependant, ils sont encore trouvés très élus socialistes pour voter les crédits militaires destinés à écraser les révolutions ouvrières de Russie et de Hongrie, Bazli, Kado, Lamanda. Donc, ex-majoritaire de guerre, ils votent les crédits de guerre en 1919-1920 pour faire la guerre à la Russie. Donc, ce sont des gens qui sont rejetés par les nouveaux militants et les révolutionnaires du Parti communiste, les révolutionnaires de la SFIO qui vont fonder le Parti communiste. Je poursuis. Après le congrès de Tours, le premier congrès départemental de la SFIO à Neuilly-les-Mines en 1921 témoigne du climat d'hostilité qui s'est installé entre les communistes et les dissidents de la SFIO maintenus, dont un grand nombre d'élus locaux qui ont entraîné leur section derrière eux. En fait, tous les députés élus en 1919, tous les députés socialistes élus en 1919 restent à la SFIO. Une très grande majorité des maires restent à la SFIO. Si bien qu'au congrès de Neulémine en 21, le congrès fustige l'attitude des individus qui lui ont signifié leur refus de s'incliner devant les décisions prises par la grande majorité du congrès national de Tours. Oui, c'est l'hémorragie pour le jeune parti communiste en 1921. Et il y a vraiment un climat d'hostilité entre les deux organisations qui s'exprime dans les colonnes de l'Éclaireur du Pas-de-Calais, le journal socialiste qui ne manque pas une occasion de dénoncer les moscoutaires financés par l'argent de Moscou et de s'attaquer aux dirigeants communistes. L'hostilité réciproque rend vraiment délicate l'application de la tactique du front unique, si bien que Torres, par exemple, explique dans Fils du Peuple, il revient sur la manière dont il s'est retrouvé minoritaire en 1923 lors du vote sur la question du front unique, puisque dans la Fédération du Pas-de-Calais, c'est la motion d'Ondicole-Renoux qui était hostile au front unique qui l'a emporté. Et donc Thorez, évidemment, dans le Fils du Peuple, explique comment lui, il avait bien compris les consignes de l'international communiste et la nécessité de faire le front unique avec les réformistes, mais que dans sa fédération, ils n'ont pas compris parce que l'hostilité aux socialistes était trop forte. Alors je poursuis. Oui, donc la citation de Thorez, les militants communistes du Pas-de-Calais ne comprenaient pas la tactique du front unique, ils y voyaient une capitulation devant le chef réformiste, presque une trahison. Je luttais au Congrès fédéral d'Avion pour le front unique. Donc les élections législatives de 1928, avec l'application de la tactique classe contre classe, exacerbent donc les tensions. On l'a vu, le PCF dénonce dans l'enchaîné l'infâme coalition socialo-bourgeoise. Et bon, je vous passe les récits de bagarres entre communistes et socialistes, comme à Hénin-Liétard en 1930, à Lens en 1931, avec une trentaine de militants communistes qui sont incarcérés pour outrage. Plus intéressant, voir que même au moment du Front populaire, la méfiance entre socialistes et communistes reste profonde. Par exemple, le seul député communiste élu en 1936 dans le Pas-de-Calais, c'est Cyprien Quinet. Il est élu dans la circonscription de Carvin, face à Raoul Évrard. Quand on regarde les... oui, là c'est Charlon, juste après, je voulais en parler. Là, on a les élections municipales de 35 et Adolphe Charlon, le maire d'Hénin-Liétard, qui explique le danger qu'il y aurait à voter communiste. Donc, en l'occurrence, c'est Nestor Calonne qui pourrait éventuellement gagner la municipale de 1935 à Hénin-Liétard. Et Charlon met en garde les électeurs. On est à la veille d'un grand tournant dangereux, les communistes pourraient l'emporter, comme ils l'ont fait à Carvin depuis que Cyprien Quinet a pris le canton de Carvin l'année précédente, en 1935, à la suite du décès du conseiller général socialiste Henri Leclerc. Et donc en 1936, au moment de la législative, on retrouve Cyprien Quinet face à Raoul Évrard. Au premier tour, Quinet obtient 6865 voix, Évrard 5380, le candidat de droite Collé 2824 et un candidat démocrate populaire 1473. Au second tour, évidemment, Évrard se désiste en faveur de Cyprien Quinet. C'est le Front populaire, hein, donc on se décide pour le candidat de gauche le mieux classé. Quinet passe de 6865 voix à 10170, il gagne un peu plus de 3000 voix de plus, mais le candidat de droite, lui, progresse de 2824 voix à 5822 voix, il gagne 3000 voix. Alors ces 3000 voix en plus pour le candidat de droite, elle ne s'explique pas par les reports de voix éventuels du candidat démocrate populaire qui avait fait un peu moins de 1500 voix au premier tour. Il y a incontestablement une partie des électeurs socialistes du premier tour qui ont voté pour le candidat de droite au second tour face à un communiste. Alors j'en viens à ma seconde partie plus rapidement sur l'ancrage territorial inégal du Parti communiste, avec en première partie le bassin minier littoral bastion communiste. Ben, ça se voit avec les chiffres du nombre d'adhérents communistes par rayon. Donc j'ai trouvé ces chiffres dans un rapport pour la conférence régionale de 1931 que les archives départementales du Pas-de-Calais avaient conservé, hein, donc c'est les RG qui avaient ça. Et donc on a, c'est le trésorier qui fait bien son travail et qui pointe du doigt la chute des effectifs. Donc l'analyse des effectifs par rayon montre l'inégalité de cet ancrage territorial. Sur le document tiré de ce rapport, on voit que les deux arrondissements de Lens et de Béthune concentrent entre 71% et 76% des effectifs communistes du département. Donc en 29, les rayons de Lens et de Béthune ont été fusionnés. Malgré la baisse des effectifs, on reste entre 71% et 76% des effectifs communistes. Derrière, on retrouve l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer, où le PC et la CGTU sont influents chez les métallos et chez les dockers. Donc le PC, comme je l'ai dit, disposait du journal Le Réveil de Boulogne. Le premier secrétaire départemental du PC en 22, c'est Arthur Bally, le premier dirigeant communiste boulonnais. Et derrière Boulogne, on retrouve Calais et Arras. Et il y a des zones blanches, il y a des déserts, c'est... la circonscription rurale de Saint-Paul-sur-Ternoise et de Montreuil, qui n'apparaissent même pas sur le tableau. Les rapports de police que j'ai pu consulter soulignent l'absence d'activité communiste dans ces deux arrondissements. Dans son rapport de 1928 que j'ai déjà cité, Thoret souligne qu'il y eut des circonscriptions où notre travail fut nul ou presque nul, faute de militants. La courbe de l'évolution des effectifs du PCF fait apparaître un premier décrochage, si on peut passer à au point suivant, donc là, c'est ces rapports de Thoret que j'ai cités. Oui, on peut le remontrer. Donc il explique qu'à Béthune, les camarades du rayon firent une grande campagne, mais pour les rayons du littoral, ils furent abandonnés à eux-mêmes. En fait, on a vraiment 70 sections communistes dans le bassin minier et deux sections sur le littoral, Calais et Boulogne, et entre les deux, il n'y a rien. Donc les rayons du littoral abandonnés à eux-mêmes et aucun travail, faute de cadre, sur l'Arageois et dans le Montreuilois et dans la région de Saint-Omer. Au niveau de l'évolution des effectifs, donc la courbe de l'évolution des effectifs fait apparaître un premier décrochage dès le début des années 20. De 14 000 adhérents de la SFIO en 1914, le PCF en retrouve 6 000, moins de la moitié. Un an plus tard, passe à 3 000. On est dans le contexte de la crise à la CGT entre la direction confédérale et départementales et les comités syndicalistes révolutionnaires dans lesquels les communistes se sont beaucoup investis. Dès 1922, le PCF enregistre des départs de militants qui désapprouvent la scission syndicale, comme Julien Priem, par exemple. Julien Priem, qui était très engagé dans les CSR, mais qui ne voulait pas de la scission syndicale. C'était des militants communistes qui souhaitaient une réorientation de la CGT, mais qui ne souhaitaient pas de scission syndicale. Et donc, une partie de ces militants-là vont... revenir à la SFIO. Donc, 2000 adhérents en 1923. Ensuite, je vous ai mis les chiffres que j'ai trouvés dans ces rapports du Trésorier fédéral. Et on remonte, donc là j'ai repris les chiffres de Roger, à partir de 1935, et bon, là évidemment c'est l'effet du Front populaire, pour atteindre plus de 12 600 adhérents, donc en 1938. Alors, contrairement à l'évolution des effectifs, par contre, sur le plan électoral, le PCF connaît une progression électorale continue, passant de... Donc là, c'est la carte législative de 24, où on voit le bassin minier qui est la zone de force, le bassin minier lanceur béthunois. Donc, le PCF connaît une évolution des effectifs. Il passe d'une moyenne départementale de 6,91% aux élections législatives de 24 à 9,78% aux élections législatives de 28. 12,54 en 32 et enfin 15,8% de moyenne départementale en 36. Alors cette progression électorale que je vous ai mis sur un graphique, je crois qu'il y a deux diapos plus là, voilà, sur ce graphique. Donc cette progression électorale, elle se fait dans un premier temps, la SFIO reste très forte et il y a un décrochage de la SFIO à partir après 1928. Qui est sensible aux élections législatives de 32 et de 36, et donc une montée en puissance du Parti communiste. Mais là aussi, ça masque de grandes disparités locales.
Désolé, on les voit mal, moi je vois mieux sur l'écran, il y a trois couleurs, hein. Il y a le rose, on va dire vieux rose pour les socialistes, il y a l'orange pour le Parti radical qui est le plus à gauche sur le graphique, et le rouge pour le PCF. Donc ça, on voit comme mieux... En disant, parce que là, je ne vois pas trop les oui. couleurs, tandis que là, sur l'écran, les modèles. Question peut-être.
De fortes disparités locales. Si on regarde dans le détail, j'ai pris par exemple les chiffres des résultats législatifs de 28. Le PC obtient entre 7,30% et 12,36% dans les cantons du Boulonnais. Il obtient 5% sur Montreuil, 3% sur Saint-Omer. Par contre, il culmine à 23% dans le canton de Lens-Est, dans l'arrondissement de Béthune. Alors, entre 3% sur Saint-Omer et 23% à Lens-Est, on a quand même une différence extrêmement sensible. Dans ce contexte de progression électorale, à partir de 1929, le PCF reconquiert des mairies. Il en avait perdu auparavant beaucoup, mais j'y reviendrai. Donc il reconquiert des mairies et c'est dans cette zone de force du bassin minier qu'il va obtenir ses meilleurs scores. Aux élections municipales de 35, où il conquiert deux nouvelles municipalités, et c'est dans cette zone de force qu'un député communiste, j'en ai parlé, Cyprien Quinet, finalement élu en 36. Alors, peut-être dans une troisième partie, j'essaie de mettre en lumière quelques spécificités, peut-être, du communisme du Pas-de-Calais. D'abord, je pense une première spécificité qui me vient en tête, c'est les liens étroits du communisme et du syndicalisme unitaire. Alors, ces liens étroits, mais quelque part, c'est aussi c'est une spécificité, mais c'est aussi un héritage... De, du modèle peut-être trade unioniste qui avait été celui de la SFIO et du vieux syndicat, dans lequel la SFIO était quelque part la courroie de transmission politique du syndicat des mineurs. Là, ici, sur cet article extrait de l'Enchaîné de 1928, où on a les candidats communistes dans l'arrondissement de Béthune aux législatives, on a Adolphe Mangematin, qui est délégué mineur, et qui est le principal dirigeant, c'est le deuxième personnage, le principal dirigeant de la CGTU dans les années 1920. Donc, quand on regarde les professions affichées, bon, alors, le premier Florimond Aubry, secrétaire départemental de l'ARAC, mais donc Mangematin, délégué mineur, Clotaire Bourlet, délégué mineur, Émile Duport, délégué mineur, ensuite on a Arthur Ramette, qui est ouvrier métallurgiste, et Georges Vasseur, celui qui a été condamné pour avoir dit qu'il avait tiré sur les officiers, qui est ouvrier mineur congédié. Donc on a vraiment la mise en avant de syndicalistes et de mineurs, et la mise en avant aussi de l'antimilitarisme avec Florimond Aubry de l'ARAC et Vasseur. Vasseur qui était emprisonné pour ses propos antimilitaristes. Le principal leader de la CGTU dans les années 1920, c'est Adolphe Mangematin, donc délégué mineur à Arne, qui est élu maire de Arne de 1929 à 1939. Alors les liens étroits entre PC et CGTU se manifestent notamment par la désignation de Maurice Thorez pour une tournée de propagande de l'Union départementale CGTU en 1923, qui agace les libertaires. Mais évidemment qui est défendu par les communistes. Mais les libertaires dénoncent le choix d'un permanent politique pour une tournée de propagande syndicale. Pourquoi choisir Maurice Thorez? Et les communistes répondent en fait dans sa tournée de propagande syndicale, il n'a tenu que des propos syndicaux. Dès 1923, l'Union départementale CGTU du Pas-de-Calais fait partie des 39 UD contre 26 qui approuvent la création des commissions syndicales communistes au sein de la CGTU. Au congrès confédéral de Bourges du 12 au 17 novembre 23, il y a un seul syndicat du Pas-de-Calais sur 21 représentés qui vote la motion Lartigues qui était défendue par les libertaires, c'est le syndicat des Verriers d'Arc. Et à ce congrès confédéral de Bourges, on peut noter que Maurice Thorez représente 8 des 21 syndicats représentés et Adolphe Mangematin 4 des 21 syndicats représentés, donc à eux deux, ils représentent 12 syndicats sur 21 du DCGTU du Pas-de-Calais. On voit les liens absolument étroits entre le PC et la CGTU. Enfin, il faut se garder cependant d'évoquer une mainmise du PC sur la CGTU qui serait automatique, et au contraire, les transferts vont donner de sens, puisque par exemple Thorez, on a vu les propos qu'il tenait sur son grand-père, et c'est Stéphane Sirot qui montre dans son bouquin que Thorez est quelqu'un qui se fait le champion un peu d'un syndicalisme du quotidien, proche des travailleurs, et en fait c'est par l'efficacité quotidienne du syndicat, ce que le vieux syndicat des mineurs faisait très bien avant la Première Guerre mondiale, qu'on amènera les travailleurs au Parti communiste. Donc la CGTU, il y a des transferts qui se font dans les deux sens entre PC et la CGTU. Dans un second temps, j'aurais parlé des autres organisations de la galaxie communiste. Là ici, c'est Cyprien Quinet que je vous ai mis à l'écran, celui qui est donc élu conseiller général en 35 et qui est le premier député communiste du Pas-de-Calais en 36 et qui était secrétaire du syndicat CGTU des mineurs du Pas-de-Calais. Sur les autres organisations de la galaxie communiste, on peut citer d'abord l'ARAC, dont les activités inquiètent le gouvernement, mais l'ARAC elle est quand même assez faible dans le Pas-de-Calais. En 1923, l'ARAC ne comptait que 5 sections dans le Pas-de-Calais, sur la côte, Salomine, Avion, Saint-Paul-sur-Ternoise et Choc. Une 6e section qui voit le jour à Cuinchy, à la suite du retrait du président local de l'ancien combattant, mais ce qu'on observe, ce que nous disent les rapports de police, c'est que l'ARAC ne représente pas une menace en fait pour les observateurs. Donc elle est essentiellement implantée dans le Bassamier de Lens-Béthune. Mais donc j'ai un rapport du commissaire spécial d'Arras qui dit que la section d'Avion a été formée par quelques dissidents de l'UNC qui auraient voulu que cette dernière s'occupât de politique. Et finalement, elle compte qu'une vingtaine de membres, dont la plupart sont employés dans les services municipaux. Et tous les rapports que j'ai pu consulter vont dans le même sens. À Salomine, il n'y a qu'une vingtaine d'adhérents, donc deux conseillers municipaux communistes, hein, bien sûr. La police nous dit l'action de l'ARAC à Salomine est nulle, à tel point que lors de l'inauguration du monument aux morts de la commune, en fait, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a eu aucune initiative d'organiser. À À Calais, on a une section de l'ARAC qui a été fondée à la suite d'un meeting de Vaillant Couturier qui compte 45 membres. Sur les autorités, ils sont tous communistes. Ils se réunissent donc, au siège du Parti communiste. Mais les autorités ne s'inquiètent pas plus que ça. À Saint-Paul-sur-Ternoise, on nous dit que finalement qu'il y a, qu'aucun des membres n'a fait l'objet d'une remarque défavorable. Et que depuis le départ de l'ancien président, il ne se livre plus à aucune propagande communiste ou antimilitariste. Il ne représente aucun danger. À Clinchy, apparemment, on nous dit que c'est parce que l'ancien président a changé d'association d'anciens combattants que les adhérents sont partis à l'ARAC. Mais en fait, ils ne sont certainement pas très fixés sur les tendances réelles de cette association et ne les partagent pas. Donc, on peut dire que l'ARAC, par le papier, n'inquiète pas plus que ça les autorités. Et on a moins de 300 adhérents recensés dans le Pas-de-Calais au milieu des années 20 pour l'ARAC et qui, pour la plupart, ne sont pas des militants antimilitaristes actifs. La démonstration faite par l'ARAC pourrait s'appliquer aux autres organisations de la galaxie communiste, comme les Amis du RSS ou la Fédération sportive du travail, dont les activités sont reliées dans les colonnes de l'enchaîné, dont les clubs sont plus souvent créés à l'initiative des municipalités communistes qui les subventionnent, comme on le voit par exemple dans l'exemple de Noyer-Godeau, avec une subvention versée à l'étoile prolétarienne. Et j'en reviens donc à ma dernière partie. Donc, est-ce qu'il y a eu un communisme municipal? Je vous ai mis en illustration quelques extraits de délibération du registre des délibérations de la municipalité de Noyer-Godeau. Donc, intéressant, Noyer-Godeau, c'est la ville de Thorez. Le maire s'appelle Henri Darras. On peut se poser la question de l'existence d'un communisme municipal qui serait peut-être l'héritier d'un socialisme municipal d'avant la Première Guerre mondiale. Alors, d'abord, peut-être dire que si l'implantation locale est nécessaire, le Parti communiste se méfie de ses élus qui peuvent être tentés de s'émanciper. De fait, comme on l'a vu, parmi toutes les municipalités restées à la SFIC après le congrès de Tours, une partie d'entre elles repasse, parmi les quelques municipalités restées à la SFIC après le congrès de Tours, une partie d'entre elles repasse à la SFIO assez rapidement, parfois après un temps de passage de leur maire à l'Union Socialiste Communiste, un futur PUP. Alors, c'est le cas à Méricourt avec Georges Ternisien, à Barlin avec Alfred Montsauré et à Avion avec Pierre Duvieux-Bourg. Tous les trois sont élus communistes qui restent fidèles à la SFIC après le congrès de Tours, mais qui, à partir de 1923-24, qui passent à l'USC, qui deviennent pupistes. Il faut dire que ces trois élus communistes devaient composer avec une majorité de leur conseil municipal divisée entre communistes et socialistes. Et dans le contexte de la bolchevisation du Parti communiste, afin d'assurer leur réélection, tous les trois plaidaient en fait pour une réunification SFIO-SFIC. En 1929, le PCF ne compte plus que 5 municipalités, dont Arnes, qui a été conquise par Adolphe Mangematin, ce délégué mineur et secrétaire du syndicat CGTU des mineurs du Pas-de-Calais dont j'ai parlé. Alors très vite, Mangematin est sous surveillance par la direction du Parti communiste régional. On lui reproche d'avoir élargi sa liste des socialistes au détriment de membres du parti. Il est radié du PCF en 1929-1930, ce qui le conduit à rejoindre les rangs de l'opposition unitaire en 1930. Il fait ensuite partie du comité des 22 pour l'unité syndicale. Donc le PCF, à travers ces exemples, se méfie de ses élus. Au tournant des années 30, on a plusieurs élus communistes qui sont exclus pour dissidence trotskiste réelle ou supposée. Alors, c'est le cas d'Émile Delabre à Montignan-Goël, qui a été maire communiste en 1929, qui rejoint effectivement, lui, la ligue communiste en 1931. Il en est même membre de la commission de contrôle. Donc il plaide pour le retour au PC, donc demander d'être réintégré au PC. Il est effectivement réintégré au PC, mais il en est à nouveau exclu en 1932. Et même à Boulogne-sur-Mer, Arthur Bally, premier secrétaire fédéral du PC, est exclu en 1929, réintégré, puis à nouveau exclu en 1930 pour suspicion de dissidence trotskiste. Donc le PC se méfie de ses élus. Cependant, les municipalités communistes s'efforcent de mettre en application les valeurs défendues par le Parti communiste. On le voit à travers l'exemple de Noyer-Godeau. Alors, parmi toutes les délibérations que j'ai pu trouver, on a par exemple une délibération pour venir en aide aux réfugiés allemands, donc on est en 1933. On a différents votes de subventions aux grévistes, comme la délibération de la municipalité de Noyer-Godeau pour venir en aide aux grévistes d'Armentières. On a des délibérations antimilitaristes, par exemple la rue des Morts qui est rebaptisée rue de la Paix. Délibération antifasciste après la mort de Joseph Fontaine à Hénin Liétard tué par l'Action française. Et donc on décide de créer une rue Joseph Fontaine à Noyelles-Godault. Soutien au club de la FST, hein, l'étoile prolétarienne de Noyelles-Godault qui est subventionnée. Politique d'éducation populaire avec la création d'une bibliothèque populaire à Noyelles-Godault. Évidemment des subventions versées aux chômeurs. Bien, étrangement, en 1935, Noyelles-Godault bascule à droite. Et c'est Louis Beugnier, qui est un syndicaliste de la, CFTC, qui bat Henri Darras et qui devient le nouveau maire de Noyelles-Godault. Et évidemment, il va remettre en cause les éléments qui étaient les plus symboliques de la politique municipale communiste d'Henri Darras. Par exemple, j'ai donc la délibération dans laquelle il supprime toute subvention à la bibliothèque populaire en disant que les ouvrages qui y figurent sont des ouvrages subversifs d'orientation révolutionnaire qui n'ont pas leur place dans une bibliothèque populaire. De la même manière, il supprime toute subvention à l'étoile prolétarienne de Noyelles-Godault, club de football de la FST, en expliquant qu'en fait ces associations n'ont aucune. En fait, ce sont des groupements politiques et qui d'ailleurs distribuent des tracts politiques contre sa municipalité, ce qui explique qu'il est privé de subventions. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, en m'excusant pour le caractère partiel et. De ce propos, puisqu'il se concentre essentiellement sur les années 20.
Il y a eu quand même des petites percées dans les années 30.